Vous écoutez RFI, il est 14h10 à Paris, 8h10 à Port-au-Prince. C'est l'heure du journal d'Haïti et des Amériques avec vous, Céline Pellarin. Bonjour.
Bonjour Fanny Blechner, bonjour à toutes et à tous. La famille Trump vit un début d'année mouvementé après le livre polémique sur Donald Trump. C'est maintenant son gendre qui est visé par une enquête du New York Times. Jared Kushner, conseiller de son beau-père de président, est épinglé pour ses liens avec Israël. Et pour l'argent qu'il aurait reçu, ce sera dans votre revue de presse. Stéphanie Schuller, bonjour.
Bonjour.
Il y aura aussi un coup de projecteur sur la cérémonie des Golden Globes, récompense de la télévision américaine très fortement marquée par les récents scandales de harcèlement sexuel au sein d'Hollywood. Et pour la revue de presse également, les pillages au Venezuela qui se multiplient. Ces émeutes de la faim inquiètent particulièrement l'Église catholique. En Haïti, Amélie Baron a rencontré un économiste. Kerner Farrell doute de la capacité de son pays à faire face actuellement au phénomène de corruption qui le mine. Les vieilles pratiques ont la vie dure. Enfin, nous irons à Chicago. Cette ville du nord des États-Unis compte plus d'homicides que New York et Los Angeles réunis. Un fléau qui en devient quotidien. Alors pour replacer les victimes avant les statistiques, un photographe a passé 6 mois à photographier les scènes de crime. Il nous expliquera son projet. Et on commence donc cette semaine avec la nouvelle révélation du New York Times. C'est Stéphanie Schuller. Le quotidien s'interroge sur les liens financiers qu'entretient Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, avec des entreprises israéliennes.
Absolument. En mai dernier, Jared Kushner accompagnait le président américain durant sa première visite officielle en Israël, puisque, rappelle le New York Times, c'est bien le gendre de Donald Trump qui a été chargé par le président de conclure un accord de paix au Proche-Orient. Peu avant ce voyage, la société immobilière de Jared Kushner avait reçu environ 30 millions de dollars. Un investissement consenti par Menorah Miftachim, un assureur qui est l'une des plus grandes institutions financières de l'État hébreu. L'accord financier, qui n'avait pas été rendu public, a fait rentrer des fonds significatifs pour la construction de 10 immeubles dans le Maryland, contrôlés par l'entreprise de Jared Kushner.
Et cette transaction est seulement la dernière en date de toute une série d'arrangements financiers entre les sociétés de la famille Kushner et les partenaires israéliens.
Parmi lesquels figure Céline également l'une des familles les plus riches d'Israël ainsi qu'une banque qui fait l'objet d'une enquête criminelle aux États-Unis, rapporte encore le New York Times, qui poursuit. Depuis qu'il a été intégré dans l'administration Trump, Jared Kushner a en effet vendu certaines parties de ses sociétés, mais détient toujours des parts dans l'empire familial. Les derniers accords commerciaux ne semblent pas violer les lois fédérales sur l'éthique, mais montrent clairement que les liens financiers qu'entretiennent ces entreprises de Kushner avec Israël s'intensifie malgré le rôle diplomatique central que le conseiller est censé jouer au Proche-Orient. Et le journal de conclure, ces arrangements pourraient encore davantage empêcher les États-Unis de jouer le rôle du médiateur indépendant dans la région.
Et puis cette information que l'on vient d'apprendre, il y a eu un incendie à la tour Trump de New York sans faire de blessés. Heureusement, Donald Trump, lui, se trouvait à Washington. On reste aux États-Unis pour parler paillettes et harcèlement sexuel, puisque c'est bien de ces ingrédients qu'a été constitué la 75e cérémonie des Golden Globes Awards, une cérémonie des récompenses de la télévision américaine marquée cette année donc par l'opposition au harcèlement sexuel alors qu'Hollywood reste hanté par l'affaire Weinstein. C'est un reportage de notre correspondant Eric De Salve.
Good evening, ladies and remaining gentlemen.
Bonsoir mesdames et bonsoir aux messieurs qui sont encore là. L'humoriste Seth Meyers ouvre la 75e cérémonie des Golden Globes par une allusion directe à l'hécatombe des barons déchus d'Hollywood. Puis le maître de cérémonie enchaîne avec une déferlante de saillies contre le harcèlement sexuel.
Nous sommes en 2018, le cannabis est enfin légal et le harcèlement sexuel ne l'est plus.
L'onde de choc de l'affaire Weinstein, accusée par une centaine d'actrices d'agression sexuelle, domine la cérémonie.
Wow, the power of women.
Le premier prix revient à Nicole Kidman, sacrée meilleure actrice pour son rôle de femme battue dans la série Big Little Lies.
Ce personnage que j'ai joué incarne ces abus qui sont au cœur de nos débats.
Mais la plus applaudie après son vibrant discours pour la cause des femmes est l'animatrice noire vedette de la télévision américaine, Oprah Winfrey, récompensée pour l'ensemble de sa carrière.
Pendant trop longtemps, les femmes n'ont pas été écoutées et crues quand elles osaient dire leur vérité contre le pouvoir de ces hommes. Mais leur temps est maintenant fini.
En signe de protestation contre le harcèlement sexuel, tout Hollywood s'était habillé en noir sur le tapis rouge des Golden Globes 2018. Éric De Salve, San Francisco, RFI.
Et au Venezuela, Stéphanie Schuller, ce sont les pillages nocturnes de supermarchés et d'autres magasins d'alimentation qui font la une depuis qu'ils se multiplient.
Absolument. La nuit dernière, différents commerces ont été encore pillés à Guyana, dans l'état de Bolivar, dans l'est du pays. Selon El Nacional, la garde nationale et des forces de police ont encerclé plusieurs zones et ont tiré en l'air pour disperser les pilleurs. Véhicules blindés et équipes anti-émeutes ont également été déployés afin d'éviter le pillage de davantage de magasins. Au nord, à la ville La Cagua, dans l'état de Aragua, les forces de l'ordre ont été impuissantes devant une foule qui avait érigé un barrage sur une route nationale pour piller la cargaison d'un camion. Ces vivres étaient destinés aux CLAP, les colis alimentaires à prix subventionnés, rapporte le quotidien La Verdad. Ces derniers jours, de tels pillages ont été constatés à travers tout le pays. Ils sont dus aux pénuries et aux prix exorbitants des aliments à cause de l'hyperinflation, résume El Nacional.
Et le gouvernement de Nicolas Maduro a pourtant ordonné la semaine dernière une baisse des prix dans 214 magasins de 26 chaînes de supermarchés.
Mais cette mesure est largement critiquée, à l'instar de l'Organisation de défense des droits à la propriété au Venezuela, CDC. Dans les colonnes de Tal Cual, elle reproche au gouvernement de fixer des prix complètement déconnectés de la réalité économique du pays. Pour CDC, l'État ne cherche qu'à soumettre la population en utilisant la faim. La situation est désormais telle, Céline, que ces émeutes de la faim, comme les appelle le journal 2001, alerte l'Église catholique vénézuélienne. Ainsi, le président de la conférence épiscopale du pays estime également que les pillages de ces derniers jours sont le résultat de la faim dont souffre le peuple vénézuélien. Ce à quoi nous assistons actuellement dans notre pays n'est rien d'autre qu'un processus de convulsion sociale, souligne Monseigneur Padrón, qui réclame une réponse juste et immédiate pour soulager la souffrance des Vénézuéliens.
Et au Mexique, 2018 débute dans le sang. La première semaine de l'année s'est soldée par la mort d'une cinquantaine de personnes.
Dans le Chihuahua, un état du nord du pays, des règlements de compte entre les cartels de Juarez et de Sinaloa ont fait 31 victimes, rapporte El Universal. Dans le sud du Mexique, très prisé, comme vous le savez, par les touristes, un affrontement entre tueurs à gages et des militaires a fait 7 morts en Basse-Californie du Sud. À Acapulco, dans la province de Guerrero, un groupe de miliciens opposé à un projet de construction de barrage a attaqué des habitants d'un village.
Et comment réagissent les autorités mexicaines face à cette vague de violence ?
Eh bien, les autorités ont décidé d'envoyer du renfort dans le sud du pays en y déployant des unités de la police militaire, rapporte le Diario del Istmo. Une mesure que la Razón ne voit pas du tout d'un bon œil. Le quotidien soulève que les fonds publics disponibles pour les localités et villes les plus violentes sont mal utilisés. Ainsi, les municipalités qui connaissent actuellement une vague d'assassinats dans le Chihuahua ont dépensé l'an dernier seulement 1,2% de leur budget pour la modernisation de leurs forces de police, mais des millions de pesos pour des installations sanitaires ou encore des fêtes du village, fustige la Razón.
Et pour finir, direction Haïti, Stéphanie, où la population se pose la question de savoir eh bien, quel sera le cap pour 2018.
Alors que les bruits de changement au sein du cabinet ministériel et de certaines directions générales s'intensifient, il est temps de se demander si les alliés du chef de l'État au Parlement vont lui donner la latitude pour remodeler une machine gouvernementale qui ne donne pas des résultats à la mesure des problèmes du pays, écrit Franz Duval dans le Nouvelliste.
Franz Duval du Nouvelliste que l'on retrouvera jeudi comme toutes les semaines sur RFI. Merci Stéphanie Schuller pour une revue de presse à retrouver sur le www.rfi.fr. Et puisque nous sommes en Haïti, restons-y. Dans le pays, c'est la corruption qui a occupé le devant de l'actualité ces derniers mois en 2017. Ça devrait continuer en 2018. Le Sénat devrait enfin tenir la séance sur le rapport Petro-Caribe qui détaille comment d'anciens ministres et hauts responsables auraient détourné près de 2 milliards de dollars depuis 2009. La corruption publique gangrène les institutions haïtiennes depuis des décennies et pour l'économiste Kernard Farrell, le pays n'est pas encore prêt à mener une lutte réelle contre ce fléau. C'est ce qu'il explique au micro d'Amélie Baron. Et pour Kernard Farrell, le réflexe est encore à la dissimulation de pratiques liées à la corruption.
Les récentes déclarations faites par le président, particulièrement en France, critiquant le Sénat, attaquant le système judiciaire qui est extrêmement faible, ensuite le refus même du Parlement de décider sur un rapport d'une commission sur la corruption, donc ça donne une très mauvaise perception. Ce n'est pas un problème haïtien la corruption, c'est un problème mondial aujourd'hui. Regardez l'Arabie Saoudite, regardez à côté de nous en République Dominicaine, regardez les pays de l'Amérique latine. Nous, on sait qu'il y a corruption, on s'est dit, ah, laissons passer tout cela.
En République dominicaine, il y avait des larges manifestations contre la corruption. Des ministres en fonction ont été arrêtés et sont en procédure judiciaire. À Port-au-Prince, une manifestation s'organise contre la corruption. Il n'y a pas 300 personnes. C'est révélateur du laisser-aller.
Oui, c'est un petit peu la culture. Hein. On accepte tout cela. Peut-être qu'on attend notre tour. Hein. Et c'est dangereux en quelque sorte. Parce que la corruption dans un pays aussi pauvre a un coût extrêmement élevé. Ce sont les maigres gouttes que vous collectez et que vous gérez mal.
Mais chacun attend son tour. Il y avait cette phrase dans un éditorial de Gary Victor qui disait « Face à la lutte contre la corruption, les gens ne veulent pas scier la branche sur laquelle ils rêveraient de s'asseoir. » C'est la vision qu'on a de la corruption en Haïti. On ne dénonce pas parce qu'on aimerait en profiter.
C'est comme s'il y a une sorte de complicité. On ne veut pas attaquer celui qui est au pouvoir parce qu'en arrivant, j'aimerais pas, lorsqu'il n'est pas là, qu'il me fasse la même chose. C'est mauvais de développer une telle culture. Et on sait bien qu'il y a une mauvaise gestion. Et tout le monde l'accepte, mais on donne des excuses. Mais pourquoi ne pas avoir réellement un jugement, mettre tout sur la table et dire, ok, d'accord, on va partir sur de nouvelles bases. Mais malheureusement, on ne sent pas la volonté. Et je pense que le comportement des parlementaires, même de discuter, de prendre une position, de dire, ok, on est d'accord, on n'est pas d'accord, tout ça, les gens se regardent et disent, comment a pu-t-on gérer plus de milliards de dollars américains et on ne retrouve pas des résultats? Parce que ça n'apparaît pas dans la croissance économique, ça n'apparaît pas dans la création de richesses dans le pays. Donc c'est clair qu'il faudra que l'on puisse dire, ok d'accord, vous êtes coupable, vous n'êtes pas coupable, ou encore s'il y a une mauvaise gestion, il peut ne pas avoir de... C'est une mauvaise gestion, mais on refuse même d'y parler en quelque sorte. C'est les institutions qui sont faibles en général en Haïti, que ce soit l'exécutif, soit le parlement, le judiciaire. Et comme on dit si bien en anglais, institutions matter. À savoir, si vous n'avez pas d'institutions dans un pays, ce sera extrêmement difficile de pouvoir jouer le rôle démocratique, mais également avoir des résultats économiques. La transparence budgétaire. Regardez ce qui se passe à l'heure actuelle. Voilà ce même Sénat qui est en train de critiquer ce qui s'est passé dans le temps. Mais est-ce qu'ils font leur travail aujourd'hui? Parce qu'un budget vient d'être réalisé. La loi des règlements, on s'en fout pas mal. Donc, les règles, les procédures, tout est dit dans la constitution haïtienne. Mais, ok, d'accord, on y va, on marche. On ne se soucie pas des résultats.
Des sénateurs qui reçoivent 1 million de gourdes pour la rentrée scolaire en cash, sans aucune reddition des comptes, sans que personne ne demande d'où vient l'argent et comment a-t-il été dépensé.
C'est grave. C'est quelque chose de très élémentaire. L'administration, ça se fait à l'écrit. Il faut passer les écritures. Donc, comment on va justifier lorsqu'on a donné du cash? Et la population regarde tout ça et perd la confiance. Il y a un manque de crédibilité par rapport aux politiciens. Et parfois, c'est comme si les politiciens disaient que d'accord, on s'en fout, on y va. Et ça va faire l'actualité pendant une semaine, on va parler. Ensuite, ça va continuer. Donc vraiment, l'environnement moral, je pourrais dire, est mauvais dans ce pays.
L'économiste Kerner Farrell, il répondait à notre correspondante à Port-au-Prince, Amélie Baron. Port-au-Prince, où il est 8h23. Et on va partir à Chicago, aux États-Unis. Dans cette ville, la criminalité est si importante qu'en 2017, ce sont plus de 620 personnes qui ont été tuées par arme à feu. 620 personnes, c'est deux fois plus d'homicides que le total des deux plus grandes villes des États-Unis, New York et Los Angeles. À Chicago, Jim Young, qui est photographe pour l'agence France Presse et de nombreux médias américains, a tenu pendant 6 mois une chronique photographique de la violence quotidienne de sa ville. Avec cette démarche si particulière, ce que Jim Young a voulu faire, eh bien, il explique à Carlotta Morteo, c'est mettre des visages derrière les chiffres.
Au début, je prenais des photos avec mon appareil photo habituel, un appareil numérique. Et puis un jour, je suis arrivé sur une scène de crime où une petite fille avait été tuée par balle. J'avais dans mon sac un appareil photo instantané. Vous savez, c'est comme un Polaroid, mais d'une autre marque. Ça éjecte la photo et elle se développe instantanément. Donc j'étais dans la maison où cette petite fille avait été retrouvée et les gens ont commencé à arriver pour poser des fleurs et laisser des messages pour lui rendre hommage. Une femme s'est approchée, elle se demandait ce que je faisais. Quand elle a vu la photo sortir de l'appareil, se développer devant ses yeux, elle était très touchée. Et c'est là que je me suis dit que la manière dont j'allais construire le projet, ce serait comme ça, grâce à une pellicule de film que les gens pourraient prendre dans leurs mains. Je voulais créer un souvenir tangible pour eux, d'une manière compatissante, pour qu'ils aient une trace de cet événement si tragique dans leur vie. À chaque fois, j'écris le nom de la personne décédée sur le bord blanc de la photo pour qu'on comprenne tout de suite que l'image représente la mort de cette personne.
Dans vos photos, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a très peu de cadavres. En fait, c'est même très rare de voir les corps ou les cercueils des gens qui ont été tués. Ce que vous photographiez, c'est plutôt ce qu'il y a autour, les impacts de balles sur une porte ou sur une vitre, les petits mémorials devant la maison du mort, faits de peluches et de bougies, ou encore la chaise vide où avait l'habitude de s'asseoir la personne tuée. Quel rapport avez-vous personnellement à ces photos que vous faites avant tout pour offrir ?
Pendant 6 mois, je suis allé sur tellement de scènes de crime et à tellement d'enterrements que, bien sûr, ça a eu un impact sur moi. Quand je regarde les photos, je ne vois pas seulement l'image, mais je vois l'histoire derrière la photo, les gens que j'ai rencontrés. Je me rappelle ce que j'ai ressenti sur le moment. C'était très important pour moi de ressentir, justement, parce que j'ai commencé ce projet quand je me suis rendu compte que de nombreux habitants de Chicago étaient devenus très complaisants par rapport à la violence quotidienne dans notre ville. Les gens en parlent comme de la pluie et du beau temps. Alors que pour beaucoup d'autres, ceux qui ont perdu un enfant, un membre de leur famille, un ami, eh bien c'est réel. Tous ces morts étaient des vrais gens, avec une histoire. Je voulais qu'on prenne conscience qu'ils ne sont pas juste des chiffres, juste un nombre sur une liste de morts.
Le photographe de presse américain Jim Young à Chicago, il répondait à Carlotta Morteo à Chicago, il est 7h26. Le journal de la première, c'est avec Edwige Saint-Thomas. Bonjour Edwige.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
La décision du maire de Kourou de consacrer l'année 2018 à Haïti fait réagir en Guyane.
Oui, une initiative de François Ringuet, contestée par Lynn Létard, membre de l'opposition municipale. Elle dénonce un manque de dialogue préalable à la prise de cette décision. Le maire de Kourou n'hésite pas lui à parler de racisme anti-haïtien. Hier, l'association Respect des Guyanais descendants d'Haïti a fait entendre également sa voix. Elle met en garde contre l'instrumentalisation de la communauté haïtienne de Guyane. Les explications de Jessie Xavier de Guyane la première.
Le nom de l'association Respect des Guyanais descendants d'Haïti renvoie un message clair. Nous sommes bien Guyanais, sans pour autant renier nos origines. Ivna Rameau, la porte-parole du groupe, a beau se défendre de prendre parti entre François Ringuet et Lynn Létard sur l'affaire de l'année Haïti à Kourou. C'est bien le communiqué de l'élu d'opposition à la municipalité de Kourou qui a provoqué cette révolte. Le besoin de dire stop, cessez d'utiliser la communauté haïtienne comme un terrain pour vos batailles politiques. À défaut de pouvoir éteindre l'incendie, Ivna Rameau veut faire passer un message, celui de la responsabilité des politiques et celui de l'unité, à l'heure où cette dernière estime que le rejet des Haïtiens gagne du terrain dangereusement en Guyane.
Jessie Xavier, le cyclone Maria leur a enlevé leur boutique et leur lieu de travail. Les brodeuses de Vieux-Fort en Guadeloupe voient leur activité menacée. Elles ne sont plus qu'une vingtaine. Elles appellent les pouvoirs publics à intervenir, particulièrement ce début de période touristique qui doit leur permettre de survivre. Marie-Paul Fischer, la présidente de l'association au micro de Guadeloupe la première.
Depuis le cyclone Maria, nous n'avons pas de local. On se retrouve chez soi avec nos ouvrages. Moi, je vis que de la broderie. Et surtout, depuis 4 mois, je ne peux pas manger chez moi parce que je n'ai pas de ressources, pas de revenus.
Alors, quelles sont vos demandes et quand ça va arriver?
Alors, on veut un local, le plus tôt possible. Le maire de Vieux-Fort nous a promis le 15 janvier. J'espère qu'il tiendra parole. Parce que sinon, ça va chauffer à Vieux-Fort.
Voilà.
Et Jojo.
Voilà, et pendant ce temps-là, le secteur touristique retrouve des couleurs en Martinique. Une annonce du comité du tourisme lui-même. L'activité de croisière à le vent en poupe. Karine Mousseau, la présidente du CMT.
Le tourisme de croisière est toujours en pleine croissance. Ça ne va pas en diminuer parce que je crois qu'on est en train de devenir une escale incontournable. Nous avons des taux de satisfaction au niveau de la sécurité qui sont très élevés. C'est pas le cas dans les autres îles. Il faut vraiment qu'on capitalise là-dessus et surtout que tous les Martiniquais et toutes les Martiniquaises en profitent. Que ce soit pas seulement les grosses machines qui profitent de ça et que même les petites entreprises touristiques puissent profiter du fait qu'on aura 600 000 croisiéristes sur cette saison et certainement l'année prochaine aussi. Après, l'hôtellerie reste le plus gros problème de la Martinique. L'hôtellerie a besoin d'un coup de pouce énorme.
Karine Mousseau répondait à Fabrice Théodose de Martinique la première. Excellente journée.
Merci Edwige Saint-Thomas. Excellente journée à vous également. 8h29 à Port-au-Prince et à Washington. Le journal d'Haïti et des Amériques s'est terminé pour aujourd'hui. C'était Jonathan Brady à la réalisation et à site internet. Pour retrouver les informations développées dans cette édition, également la page Facebook. Passez une excellente journée à l'écoute de la Radio du Monde.
RFI. La sélection du mois.
Ken Booth.